Salut à toutes et à tous et bonne année! C'est le retour de Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Comme chaque samedi, on va revenir sur les dernières actus les plus marquantes d'Apple et de la tech en général. Au sommaire cette semaine, le retour imminent de Trump à la Maison Blanche. Alors que plusieurs entreprises de la Silicon Valley se mettent en ordre de marche derrière le nouveau président, comment Apple va-t-elle négocier cette situation? On va en discuter. On va également faire un point sur les ventes d'iPhone en 2024, sur Sonos qui cherche à rebondir après une mauvaise passe et sur l'Apple Watch comme compagnon nocturne. C'est parti pour ce récap de début d'année. Pour revenir sur l'actualité brûlante des derniers jours, je suis accompagné comme d'habitude par Christophe, le boss de Mac Génération. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ?
Salut Stéphane, bonjour à tous et bonne année à tout le monde. Ça va et toi ?
Ça va bien, ouais.
On a commencé une année à toute vitesse, on n'a pas trop eu le temps de s'embêter. Il y a une petite coupure, mais elle n'a pas duré très longtemps.
C'est vrai, il y a eu le CES en début d'année. Bon, il n'y a pas eu énormément de choses pour Apple au CES, mais on va tout de suite parler d'un sujet assez brûlant. Pour la reprise de Sortie de Veille, je me suis dit qu'on allait démarrer avec un sujet léger. Un sujet qui fait consensus, un sujet autour duquel personne ne s'étripe, le retour de Donald Trump et ses effets sur l'industrie de la tech. Bon bah, blague à part, c'est évidemment une actualité incontournable. Le lundi 20 janvier, Donald Trump redeviendra le président des États-Unis. Ce retour à la Maison Blanche engendre d'ores et déjà de fortes répercussions. Alors, avant l'élection, Trump pouvait déjà compter sur Elon Musk et son réseau X comme allié de poids. Et maintenant, c'est Mark Zuckerberg qui adapte, si je puis dire, Facebook et Instagram à la vision du nouveau président et d'Elon Musk. Meta va donc relâcher considérablement ses règles de modération, quitte à laisser passer des propos discriminants sur les minorités ainsi que des fake news. Christophe, comment Apple va gérer cette nouvelle présidence selon toi ? Est-ce qu'elle va devoir manger son chapeau sur certains de ses engagements ? Je pense notamment à la défense des droits LGBT pour aller dans le sens de Trump.
Bon, je vais commencer par répondre un peu à côté de ta question. La semaine dernière, j'étais abasourdi par la décision de l'Union européenne de mettre en pause toutes les enquêtes contre Apple et les autres géants américains. J'ai souvent été critique par rapport à la façon dont la Commission s'y prenait avec les big tech. Mais là, franchement, les bras m'en tombent. Je l'ai souvent dit dans ce podcast, j'étais impatient de voir comment les choses allaient évoluer avec l'élection de Trump, mais je pensais que l'Europe ferait au minimum semblant de se battre. Quand je pense à tous les articles dithyrambiques qu'on a pu lire sur Verstager, sur la capacité de l'Union européenne à réguler et à mettre au pas les géants d'Internet, c'est un petit peu dur à avaler. Alors, je veux pas faire de politique, mais franchement, en tant qu'Européen, moi, j'ai pris quand même un coup au moral quand j'ai lu ça, et ça montre quand même qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans nos institutions. Tout ça pour en revenir à Apple, je suis pas certain que le nouveau mandat de Trump pose tant de difficultés que cela. On vient d'en avoir la démonstration. Il y a la volonté chez Trump apparemment de défendre et soigner les fleurons de la Silicon Valley, à condition, et c'est bien là le problème, de rentrer dans le rang et de coopérer.
Mais c'est ça, ouais.
D'ailleurs, c'est assez édifiant de voir à quel point tous les grands noms se sont mis au garde à vous. C'est vraiment spectaculaire, moi j'ai jamais vu ça. Et alors Zuckerberg, il est juste fantastique, on a vraiment l'impression qu'il a envie de devenir le petit favori de Trump à la place de Musk. Je lui souhaite bon courage parce que ça,
c'est compliqué.
Il joue pas très bien. Au passage, l'une des questions que je me pose, c'est combien de temps l'idylle entre Musk et Trump va durer. Connaissant le tempérament des deux hommes, je doute que cela tienne 4 ans. Alors, il y a des choses entre Apple et Trump qui vont s'inscrire dans une certaine continuité. Notamment la question du Made in USA, qui a commencé lors du premier mandat de Trump et qui s'est un petit peu poursuivi sous Biden. Le vrai souci pour Tim Cook, ça va être de gérer les sauts d'humeur de Trump. Si un jour il se décide à augmenter des droits de douane de tels produits et que cela concerne l'iPhone, bon courage. Ou qu'il se mette dans l'idée de s'attaquer au chiffrement d'e-messages et d'autres services de messagerie instantanée. Je pense que c'est précisément sur ces points-là que Tim Cook devra faire preuve de diplomatie. Honnêtement, pour les questions sociétales, je ne pense pas que Donald Trump s'immisce dans les affaires d'Apple. Et sur ce point précis, je fais quand même confiance à Tim Cook. Apple l'a déjà prouvé par le passé. Voilà, c'était sous administration démocrate, mais Quand l'avortement a été interdit dans plusieurs États, elle n'a pas hésité à couvrir les frais de ses employés. Et sachant que les employés d'Apple ne sont pas forcément des admirateurs de Trump, il y aura également une pression à gérer de ce côté-là pour Tim Cook.
On va passer à un sujet un peu moins sensible, quoique il est très sensible pour Apple, puisqu'il s'agit des ventes d'iPhone. Et puis, l'iPhone, ça représente toujours la moitié de son chiffre d'affaires. Alors, l'année 2024 étant terminée, on a maintenant une vue globale. D'après plusieurs cabinets d'analyse, Apple a vendu environ 232 millions d'iPhone en 2024, soit à peu près la même quantité qu'en 2023. Selon certains cabinets d'analyse, c'est Apple qui a vendu le plus de smartphones dans le monde l'année dernière. Pour d'autres, c'est Samsung. Bon, en fait, les deux fabricants sont au coude à coude et il faut relever que Apple n'a pas de smartphone aussi bon marché que Samsung à son catalogue. Donc c'est quand même une performance de vendre 232 millions d'iPhone qui sont assez, assez chers. D'ailleurs, si vous voulez un iPhone, aujourd'hui en Europe, vous n'avez même plus rien en dessous de 870 €. Est-ce qu'Apple va pouvoir faire aussi bien ou même mieux cette année, Christophe ?
Ah, le marché des smartphones, il est à l'arrêt. Hein. Enfin, voilà, il me fait penser à celui des PC pendant les années 2000. Voilà, une année, ça gagne quelques pourcents, une année, ça baisse de quelques pourcents. Il y a eu le Covid qui a un petit peu déformé tout cela. Mais voilà, enfin, s'il y a un mot qu'il caractérise, c'est le mot maturité. Mmh. Alors, je vais prendre mon exemple, étant extrêmement centré sur moi-même. J'ai un iPhone 14 Pro, j'en suis très content. C'est la première fois que je vais garder un iPhone 3 ans. Et là, je le changerai à la rentrée à cause d'Apple Intelligence. Pas forcément parce que je suis convaincu d'Apple, j'ai absolument aucun avis là-dessus, je l'ai pas encore testé. Mais c'est quand même mieux de savoir de quoi on parle quand on travaille pour une société qui s'appelle Mac Generation.
C'est mieux.
Voilà. Et donc, je pense qu'il y a, voilà, la durée de vie d'un smartphone ne cesse d'augmenter. Et donc, voilà, le marché en pâtit forcément. Alors, sur le marché des smartphones, Apple et Samsung et bien d'autres et tous les autres concurrents font face, à mon avis, à deux problèmes. Alors, pour Apple, il y a évidemment le marché chinois qui est compliqué à appréhender. Et puis, sans doute, c'est le point le plus important, l'absence d'un nouvel appareil capable de lancer une nouvelle dynamique de renouvellement. Voilà, par exemple, l'iPhone 10, lorsqu'il est arrivé, ça a un petit peu changé la donne. Alors, les deux points que j'ai cités sont en partie liés. Le consommateur chinois est très volatile et axé sur les nouveautés. Et je pense que l'iPhone le fait moins rêver que par le passé. Alors, la botte secrète cette année pour relancer les ventes d'iPhone, ce serait ce fameux iPhone Air, j'allais dire iPad Air par habitude, qui est attendu à la fin de l'année, et voilà, qui aurait un design assez nouveau, qui serait très fin, qui serait une proposition assez différente des modèles Pro tels qu'on les connaît. Apple n'est pas la seule société à avoir cette idée. Hein. Samsung travaille apparemment sur un modèle similaire. Alors, est-ce que cela permettra d'insuffler une nouvelle dynamique ? J'en sais fichtre rien. Du côté d'Apple, il y a également le nouvel l'iPhone SE qui va permettre à Apple de se relancer sur le marché du milieu de gamme. Alors, il aura forcément un impact intéressant sur le marché européen qui ne tolère maintenant à la vente uniquement des modèles USB-C. Donc, je pense que l'iPhone SE aura un petit impact sur les ventes d'iPhone, mais de là à relancer une véritable dynamique, j'en doute un peu, à vrai dire.
Et puis pour revenir sur la Chine, il y a aussi le fait que Apple Intelligence n'est pas disponible en Chine pour le moment, parce que c'est compliqué d'intégrer des modèles étrangers en Chine. Donc Apple doit aussi collaborer avec des acteurs locaux pour proposer un Apple Intelligence chinois, quoi.
C'est effectivement très compliqué. Et je pense qu'en plus, il va y avoir la composante politique qui va finir par s'immiscer tôt ou tard dans le problème des ventes d'iPhone en Chine. Donc, on verra bien ce que cela donne. Mais il faut voir ce que la WWDC va donner. Hein. Mais je doute qu'à l'heure actuelle, Apple Intelligence soit un véritable argument de vente. Pour l'instant, ce que fait Apple Intelligence est beaucoup trop basique et finalement, si vous installez sur votre iPhone ChatGPT ou Copilot, vous faites à peu près la même chose qu'Apple Intelligence. C'est certes moins bien intégré, mais voilà, pour l'instant, je pense que Apple Intelligence n'a pas assez de valeur ajoutée pour pour lancer une vague de renouvellement, en tout cas.
C'est que le début, et puis il y a même une certaine mauvaise presse avec les premières notifications résumées là, qui correspondent pas toujours au contenu des titres, et c'est pas forcément une bonne image pour Apple Intelligence.
Clairement, mais je pense que par rapport aux ventes d'iPhone, plus que jamais, la WWDC, et donc iOS 19, pourrait être la clé. Hein. Si vraiment on a une mise à jour significative d'iOS avec des nouveautés qui nécessitent des terminaux récents, évidemment il faut que ces nouveautés soient spectaculaires, alors là, peut-être que. Mais la clé, c'est le logiciel, à mon avis.
On va parler un peu de Sonos maintenant. Ça fait plusieurs mois que le fabricant d'enceintes est dans une mauvaise passe. La mise à jour majeure de son application au printemps dernier ne s'est pas du tout passée comme prévu. Elle a entraîné plein de bugs, elle a fait disparaître des fonctions, rendu des choses moins pratiques, et j'en passe. Alors depuis, Sonos rame pour regagner la confiance de ses clients, et son patron, Patrick Spence, a finalement remis sa démission cette semaine, et le directeur produit a fait de même. Donc c'est un membre du conseil d'administration qui occupe temporairement le poste de CEO, le temps de trouver la personne idéale. Est-ce que ça serait pas le bon moment pour qu'Apple achète Sonos ? Alors, c'est une marque qui pourrait aider Apple à accélérer dans le domaine de l'audio. Et puis, bah, c'est d'ailleurs une idée qui a traversé l'esprit d'un dirigeant de Cupertino à une époque.
C'est un vœu pieux de ta part ?
Non, en vrai, je ne sais pas si Sonos serait pas mieux quand même indépendamment d'Apple. Mais
je pose la question. Tu as peur que les prix augmentent, c'est ça, en tant qu'utilisateur Sonos ? Non, pour être honnête, je vois pas l'intérêt pour Apple. Alors, il ne fait aucun doute que les produits Sonos sont globalement de qualité, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais il n'ouvre quasiment aucun nouveau marché à Apple. Entre Apple et Beats, Cupertino a déjà toute une gamme d'enceintes et de casques à son catalogue. La seule chose qui manque à Apple, c'est une gamme de barres de son. Je suis pas sûr que l'enjeu envahit la chandelle quand même. Mais si tu me poses cette question et tu l'évoquais, c'est parce qu'on a appris cette semaine qu'au début des années 2000, un certain Tony Fadell avait fait la promotion de Sonos aux presses de Steve Jobs et qu'il poussait pour une acquisition. Et c'est là où Steve Jobs est quand même assez irremplaçable. On lui parle d'une acquisition, on lui dit « Non, moi je vois plutôt une action en justice parce que là, leur molette et tout, ça me fait un petit peu trop penser à l'iPod. » Mais alors, pour en revenir au Sonos de 2025, on a vraiment l'impression que la société est à la croisée des chemins, on a l'impression qu'elle a plus trop de relais de croissance évident. Elle a lancé son casque qui, a priori, plus qu'a priori, on l'a testé, est un très bon casque, mais qui a du mal à trouver son public. On est quand même dans un marché extrêmement compétitif avec des grands noms comme Sony, Bose et compagnie. Donc voilà, je me pose la question, je me demande si effectivement le patron par intérim ne va pas se dire que finalement l'hypothèse d'une vente n'est pas quelque chose de farfelu. Mais à Apple, j'en doute un peu quand même.
On va terminer cet épisode de Sortie de Veille en revenant sur un sondage qu'on avait réalisé récemment sur Watch Génération. On vous avait demandé si vous aviez l'habitude de porter votre Apple Watch pendant la nuit. Vous avez répondu oui à 53%, non à 36% et parfois à 11%. Alors je ne m'attendais pas à autant de réponses positives. Ça fait plus d'une personne sur deux qui porte son Apple Watch la nuit, même si évidemment le lectorat de Watch Génération n'est pas forcément représentatif de la clientèle globale de la montre. Est-ce que tu portes ton Apple Watch la nuit, toi, Christophe ?
Oui, depuis le premier jour ou presque, ça ne me dérange pas du tout. Et voilà, je dois même confesser qu'il m'arrive de porter parfois deux montres pour comparer les résultats et tester différents capteurs.
Ah oui, même la nuit ou la journée ?
Ouais, mais ça m'a. Mais oui, c'est surtout la nuit, parce que si tu portes une Apple Watch et que l'aspect santé est intéressant pour toi, est quelque chose qui t'intéresse, il est presque indispensable de porter une Apple Watch la nuit. Il vaut mieux la porter la nuit que la journée. C'est à ce moment-là que la montre est en mesure de remonter les métriques les plus intéressantes. Et oui, ça permet d'en savoir un petit peu plus sur soi, comment on fonctionne, et d'appréhender peut-être certaines situations, de se dire « Ah, là, il faut peut-être que je ralentisse » ou « Ah, aujourd'hui, ça, a priori, ça va très bien ». Mais il faut aussi ne pas renier, ses sensations, hein, ce qu'on sent. Hein. Je dois dire que l'application Sinvito d'Apple est assez bien faite de ce point de vue. Il y a juste quelque chose qui est étonnant, c'est qu'elle ne prenne pas en compte la HRV dans son rapport quotidien. Mais au moins, enfin,
la
Apple
HRV,
en plus...
La HRV, tu peux expliquer qu'est-ce que c'est?
Alors, la HRV, c'est la, le rythme de variabilité cardiaque.
D'accord.
Voilà, on l'a déjà expliqué à moindre prise sur World Generation. Mais c'est, en fait, c'est une donnée qui permet d'en savoir, enfin, qui est assez pertinente justement pour savoir où on en est de son état de forme. Quand le chiffre est plutôt élevé, c'est positif. Et à l'inverse, quand le chiffre est assez bas dans sa, par rapport à la fourchette, par rapport à la fourchette de chaque personne, c'est qu'on est plutôt fatigué. Et qu'on a, et qu'on a peu récupéré. Mais donc, Apple, au moins, se base sur des métriques fiables. D'autres, alors, je pense notamment à Garmin, mais c'est pas le seul, vont un peu plus loin en donnant un score de sommeil. Mais moi, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec ce type de score, parce que les montres ont justement beaucoup de mal à analyser le sommeil et à faire la différence de manière cohérente et, enfin, surtout correcte entre les différentes phases de sommeil.
Eh bien écoute, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Bon week-end.
Eh bien, bon week-end à tous. Et on attend avec impatience la première nouveauté d'Apple de l'année. Je ne sais pas si ce sera laquelle. On avait, au début, on avait cru comprendre que ce serait Beats avec ses nouveaux Power Beats Pro, peut-être.
C'est vrai. Mais toujours ça qu'on attend, ouais. Ou alors, d'ici le mois d'avril, l'iPhone SE, qu'on attend avec impatience, hein, parce que lui, quand même, il pourrait être super intéressant au niveau rapport qualité-prix. Hein. Et puis bien, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou une autre plateforme de podcast. Et à la semaine prochaine pour un prochain rendez-vous de Sortie de Veille. Salut à tous, bon week-end.